La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci d'être là pour le troisième épisode de notre série consacrée à Jack London, météore du monde des lettres disparu en 1916 à l'âge de 40 ans seulement. Difficile d'imaginer que Martin Eden, roman d'une certaine maturité pour London, a été écrit alors qu'il n'avait que 31 ans, qu'avant cela il avait déjà publié Cro-Blanc et L'Appel de la Forêt entre autres, qu'il avait été marin-pêcheur, chercheur d'or, vagabond, petite frappe des quais d'Auckland et qu'il restait encore à lui et qu'il lui restait encore à se lancer dans l'aventure d'un ranch ultra-moderne et d'une maison fastueuse, laquelle d'ailleurs, à peine terminée, disparaîtrait dans un incendie. Les vies au pluriel de cet aventurier au destin si américain, Bernard Fauconnier nous les a rappelées lundi dernier. Hier, nous nous sommes attardés sur Martin Eden ainsi que sur une petite nouvelle d'anticipation de Jack London, laquelle nous a conduit à nous interroger sur sa philosophie politique. Et puis demain, nous parlerons de ses départs, de ses fuites, au sens propre comme au figuré. Ce sera avec Michel Lebris et en seconde partie, nous retrouverons Jennifer Le Sieur pour terminer notre série sur sa conception du travail d'écrivain. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois le professeur de littérature américaine Philippe Jaworski à l'occasion de la sortie des œuvres de London en Pléiade. Il en a dirigé l'édition et rédigé la présentation. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Donc, jusque-là, toutes ces tentatives qu'il avait faites avant La Ruée vers l'or pour se faire publier avaient tout avorté. Il y avait juste deux ou trois petites nouvelles qui avaient paru dans des petites publications confidentielles. Et c'est finalement ces nouvelles, le groupe de nouvelles qu'il a réuni sous le titre Le Fils du Loup, qui ont paru la première dans une revue à ses côtés de la côte ouest qui s'appelait Overland Monthly. Et ça a attiré l'attention d'une revue de la côte est qui, elle, était extrêmement cotée. C'était Atlantic Monthly, qui était la revue intellectuelle de l'époque où écrivaient tous les maîtres. Et on a été étonné par l'originalité du talent de Jack London, c'est-à-dire par ses sujets, par les personnages qu'il mettait en scène. Ça n'en ressemblait pas du tout aux personnages de la littérature américaine de l'époque qui, n'oublions pas, étaient dominés par Henry James, c'est-à-dire les conflits psychologiques, l'aristocratie, etc. On ne mettait pas en scène des mineurs, des ivrognes, des danseuses, des entraîneuses de saloon, des guides indiens ou de pauvres diables. C'était vraiment toute une faune qui était inconnue de la littérature américaine.
Bonjour Philippe Jaworski.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'était Francis Lacassin, vous l'avez reconnu. Il racontait les débuts littéraires de Jack London, des débuts qui datent de l'année 1900 avec la parution de ce recueil de nouvelles, Le Fils du Loup, que vous considérez comme, je vous cite, le document le plus intéressant pour comprendre les enjeux et la démarche de Jack London.
Alors, vous faites allusion là, je crois, non pas précisément à ce recueil, mais au texte que Jack London a rédigé pour son éditeur et qui est un texte de présentation où il se présente pour la première fois. Alors, je crois que c'est en effet un texte absolument essentiel. C'est le premier d'une série de textes autobiographiques de Jack London. Il en écrira beaucoup d'autres, sous forme d'essais, sous forme de récits, comme le Trimard, ou un peu plus tard, John Barleycorn, qui sont ce qu'il appelle ses mémoires d'ivrogne. Et c'est un document, en effet, essentiel, parce qu'il permet de comprendre que très tôt, dès son entrée sur la scène littéraire, on est en 1900, il a 24 ans, il a besoin de se construire un personnage et évidemment ce n'est qu'à lui-même qu'il confie sa propre mythologie.
Donc il a conscience de se fabriquer à ce moment-là une image et de réussir déjà à la fixer pour quasiment toute sa vie.
Écoutez, conscience, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'a construit très délibérément. Il ne changera plus. Il ne fera que rajouter dans ses textes successifs sa version d'un certain nombre d'épisodes de sa vie qui sont postérieurs. Mais je voudrais beaucoup insister là-dessus parce que il y a autour de London une extraordinaire mythologie qu'il a été le premier à construire. Et si je puis me permettre, notre travail d'édition dans la Pléiade d'un choix d'œuvres de London, évidemment, ce ne sont pas ses œuvres complètes. Il a publié une cinquantaine d'ouvrages.
C'est déjà deux gros volumes.
On ne pouvait pas les rassembler en deux volumes de la Pléiade. Notre travail d'édition a consisté, pour une grande part, et j'en assume vraiment la responsabilité, à tenter d'aller contre cette mythologie qui, à mon sens, a fait un grand tort au texte de London. Je veux dire qu'elle a contribué à figer une certaine image ou un certain nombre d'images
de
Jack London. Et les images de London, Dieu sait qu'on en a et qu'on les voit et qu'on les revoit sur de beaux livres et sur papier glacé. Mais à mon sens, ce que raconte la littérature de Jack London, c'est autre chose. Et je crois que cette mythologie, encore une fois, qui est celle de l'aventure, de l'aventurier, vous avez résumé quelques traits de la vie de l'homme, cette mythologie continue, me semble-t-il, à faire grandement obstacle à une appréhension beaucoup plus directe de sa littérature, de sa fiction.
En tous les cas, ce qu'on apprend dans ce premier texte, ce texte fondateur, c'est qu'il se dépeint déjà comme un lecteur omnivore. Hein, et ça, c'est pas de la mythologie, ça, c'est la vérité.
Absolument. C'est un grand lecteur. Il y a deux étapes dans ses lectures. Il y a les lectures d'enfants. Les lectures d'enfance auxquelles je crois il faut accorder une grande importance, et c'est celle qui lui accorde. Autrement dit, on s'aperçoit que tout commence chez Jack London avec la littérature. Peut-être pas tant avec la vie qu'avec la littérature. Et d'une certaine façon, la vie dans laquelle il va être jeté très tôt, pour des raisons économiques et familiales qui sont bien connues, c'est une vie qu'il va tenter de vivre à l'image de celle de ses aventuriers, de ses toutes premières lectures d'enfants. C'est-à-dire que la vie, pour lui, il va tenter de la vivre comme un roman, de sorte que, il y a une sorte de continuité entre ses lectures d'enfants, sa vie et ses propres écritures, et c'est toujours des histoires d'aventures héroïques qu'il va conter.
Et on peut même peut-être dire que cet homme qui n'a quasiment pas eu d'enfance, car il a fallu qu'il travaille tout de suite, n'a finalement jamais cessé d'être un enfant. Vous citez un journaliste de l'époque, Oliver Maddox UFR, qui signalait un syndrome de Peter Pan chez Jack London.
Oui, j'étais frappé à un certain moment de constater qu'il y avait pratiquement pas d'enfants dans le monde de Jack London, ce qui peut paraître très paradoxal quand on sait à quel point on l'a réduit de manière assez discutable à un romancier pour la jeunesse. Et je crois qu'en fait, il n'en avait pas besoin parce que l'enfant, ou en tout cas la vision de l'enfant, la voix de l'enfant, ses terreurs et ses émerveillements, il les a en lui. Il y a un enfant en permanence chez lui. Et je suis assez tenté de lire, par exemple, le début de l'un de ses textes les plus célèbres, L'appel du monde sauvage, comme une variation sur un début de conte de fées. Il était une fois un chien qui ne savait pas lire.
Alors, le savoir, c'est primordial, la lecture, c'est primordial. Il était fasciné par le monde de l'esprit. Est-ce que ce monde de l'esprit, qui fascinait également Melville, et on sait que Melville a beaucoup inspiré Jack London, est-ce que vous voyez là un parallélisme entre les deux auteurs, et est-ce que Du coup, vous mettriez au même niveau Jack London et Melville, de ce point de vue-là, en tous les cas, et peut-être sur les autres plans.
Il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, le monde de l'esprit, le monde des livres, il y a, je crois, chez les deux auteurs, quelque chose qui est commun. Ce sont deux autodidactes. Je remarque que chez ces deux écrivains, la révélation du monde qu'offrent les livres a fait basculer leur vie. Ils ont l'un et l'autre une admiration éperdue pour les grands écrivains, et London va se doter d'une culture avec ses dieux, ce qu'il appelle ses géants, dont Spencer, dont je crois que vous avez déjà parlé dans les émissions précédentes.
On va en redire un mot, c'est important.
Alors, ça c'est une chose. Il faut voir, il y a une différence entre les deux écrivains. Ce sont deux autodidactes, mais il y a plusieurs manières de l'être. Jack London, j'ai envie de dire que Jack London est au départ n'a rien. Il est démuni de tout. Il va tout se construire tout seul. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, parce qu'il me semble que c'est une clé pour le comprendre. Melville n'a pas grand-chose, mais il a quelque chose que London n'a jamais eu et qui va être essentiel pour lui. Il a la Bible. Il a la Bible.
La mère de London, pardonnez-moi, je fais une parenthèse, tenait quand même à ce qu'il ait une éducation, venait d'une famille bourgeoise.
Absolument.
Il ne vient pas tout à fait de
absolument. Rien. Mais je parlais là disons, des outils qui vont permettre véritablement une création. Melville va spontanément se tourner vers ce qui constitue une sorte de trésor, de réserve, d'histoire, de personnages, de situations, de problématiques, d'interrogations. Melville est un questionneur incessant, et on voit derrière lui constamment l'exégète biblique. London, lui, va devoir pratiquement tout se construire à partir de ses première lecture d'enfant, sûrement. Et il est très remarquable de voir que, au tout début de sa carrière d'écrivain, on est dans les années 1900, dont nous parlions il y a quelques minutes, on le voit, il émerge à peine sur la scène littéraire, commencer à abreuver les jeunes écrivains de conseils et de recommandations dans sa correspondance, dans des essais, dans des articles, où il explique comment on devient un écrivain.
On en parlera demain avec Jennifer Le Sieur, mais poursuivez.
Oui, l'une des choses les plus importantes pour lui, c'est que l'écrivain ne peut commencer à travailler que s'il s'est constitué ce qu'il appelle une philosophie de la vie. Alors là, on aborde la question des idées. L'écrivain doit avoir des idées sur tout, sur l'homme, sur le monde, sur la vie. Une philosophie nourrie des découvertes scientifiques récentes, d'où le spencerisme, qui constitue pour lui la clé absolue de la compréhension de l'univers. À cette condition-là, l'écrivain peut commencer à écrire. Donc il a ce goût de l'idée, au point que on le surprend dans certaines lettres évoquant ce qu'il estime être le travail, voire la mission de l'écrivain, qui est d'exposer un certain nombre d'idées, d'exprimer un certain nombre d'idées, et dit-il, je le cite, « le reste n'est que de l'habillage ». Alors c'est une formule qui est très surprenante pour nous aujourd'hui, la forme, l'écriture, l'expression, c'est de l'habillage.
Un exemple de ce que ça donne du point de vue littéraire, c'est peut-être cela le plus important, une littérature à message, un exemple avec l'appel de la forêt, que prend ici Francis Lacassin.
Il a écrit d'ailleurs qu'il ne croyait pas à l'art pour l'art, que l'art n'était que le revêtement d'une pensée. Et alors on le voit même dans les histoires qui apparemment ne sont chargées d'aucun message. Alors l'appel de la forêt, redisons-le pour les gens qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire d'un chien de luxe qui appartient à un magistrat de Californie, qui est volé par un domestique congédié, parce qu'à cette époque on cherche les chiens très grands, très robustes, avec un poil très long, pouvant tirer des traîneaux. Et voilà ce chien qui est expédié au Klondike et qui vit la ruée vers l'or. Donc c'est l'histoire de la ruée vers l'or vue par un chien. Il trouve que les chiens travaillent beaucoup, tirent des traîneaux, sont très malheureux.
Ce qui était vrai d'ailleurs. Il y avait même un cimetière de chiens.
Enfin, oui. Et donc ce chien découvre l'apprentissage de la vie. Il découvre qu'il y a un prolétariat des chiens, qu'il faut vivre pour manger, qu'il faut vivre en équipe. Il apprend à tirer comme les autres, parce que si on tire pas, les autres sont pas contents, ils vous mordent. Et puis il y a une espèce de fierté du travail bien accompli. On veut être le premier. On veut lutter, on veut être le chien de traîneau de tête. Alors c'est dur parce qu'il faut éliminer les autres. Et puis il y a une espèce d'autorité supérieure qui est cet homme blanc qui vous protège et qui vous aime. Et ce chien qui jusque-là a été très maltraité, battu, apprend la bourre. Il apprend quand même que la vie n'est pas désespérée, qu'il peut y avoir un contact entre des gens différents, entre des inférieurs et des supérieurs, c'est-à-dire entre l'homme et le chien. Et il se prend d'amour pour ce maître. Et il fait des choses pour lui qu'il n'aurait jamais faites pour personne. Donc il faut prendre les gens par l'amour et non pas par la haine. Pour les faire avancer, voilà. C'est déjà le message. Et ce chien, finalement, lorsque le rapport est rompu, que ce maître meurt tué par des Indiens, préfère retourner dans la nature. Et il va vivre avec les louves.
Voilà, prendre les gens par l'amour et pas par la haine, c'est cela le message, Philippe Jaworski. C'est donc une littérature à message ?
Écoutez, alors, bien sûr, London est persuadé qu'il a un message, appelons ça comme ça si vous voulez, à délivrer à ses lecteurs. C'est pour lui la fonction de l'écrivain. Bon. Je pense que il est là dans sa construction. Dans la construction de son discours et de sa vocation. Je ne suis pas personnellement persuadé, et alors, bon, de ce point de vue-là, évidemment, il frôle souvent le roman à thèse. Je crois que la littérature qui peut nous toucher encore aujourd'hui, qui nous touche aujourd'hui, la littérature vivante de London, est un petit peu ailleurs. Je me méfie des idées de London, non pas au sens que j'ai une certaine méfiance à son égard, mais London est quelqu'un qui a beaucoup discouru sur ses idées, et j'ai tendance à penser que ce qui est important dans la littérature de London commence lorsque ses idées volent en éclats. Dans ses textes.
En fait, quand la littérature s'échappe et lui échappe, absolument. Et quand finalement il ne remplit pas son projet qui est de faire une littérature exactement. Édifiante, mais que hop, il se retrouve pris par ce qu'il est en train de décrire.
Exactement. Lorsque tout ça lui échappe et lorsqu'il lui-même échappe et s'échappe à lui-même, London est un être, je crois, très profondément indompté et indomptable. Et il me semble absolument essentiel d'essayer de continuer à le lire dans cette perspective-là et d'éviter à tout prix de l'étiqueter, de lui donner des étiquettes, romancier socialiste, romancier ceci, romancier cela. Parce qu'encore une fois, il y a chez lui une extraordinaire construction, un échafaudage idéologique, si vous voulez. Et puis, il y a l'écriture. Et on le voit dans pratiquement tous ses grands textes, il y a toujours un moment où il perd la maîtrise d'une expression, d'un message, pour se lancer à l'aventure dans une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambiguë, et qui parfois même va aller contre ses propres croyances. Les cas les plus flagrants, me semble-t-il, sont, pour citer les grands romans, Le Loup des Mers et Martin Eden.
On parlera du Loup des Mers en particulier, peut-être, oui. Un peu plus tard.
Vous connaissez les malentendus qui ont opposé London à ses lecteurs. Mais on pourrait parler de beaucoup d'autres textes dans lesquels on voit très bien que le point de départ ou l'idée sur laquelle il s'appuie et qu'il va prendre dans le corpus de ses textes de référence, l'évolutionnisme, le socialisme, etc., l'idée de départ, dès qu'on s'enfonce à une certaine profondeur, dès que lui-même s'enfonce à une certaine profondeur dans son récit, et peu à peu possédé par son histoire, tout ça passe par-dessus bord. Mais ce qu'il nous dit est infiniment moins clair.
Et moins caricatural.
Et moins caricatural que ce qu'on croit.
Mais du coup, c'est assez étonnant, parce qu'il a bien dû s'en rendre compte à un moment donné, quand il écrit Martin Eden, par exemple, il voit que ce qu'il dit n'est pas exactement ce qu'il avait prévu de dire, et pourtant, il continue, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas j'ai raté mon roman, je vais le recommencer pour que ce soit plus clair, pour que le message apparaisse davantage. Et finalement, c'est presque parce que il manque un petit peu de... parce qu'il bâcle, d'une certaine manière, c'est pas du tout le bon mot, mais c'est parce qu'il décide de ne pas suivre son projet initial qu'il fait un grand roman, Philippe Jaworski.
Écoutez, son projet initial, vous savez, son projet initial, on en trouve trace tout de même très tôt dans ses notes. On est frappé de voir que dans les notes prises, jetées sur le papier bien des années avant qu'il entreprenne la rédaction du roman, il a tout de suite pensé que son apprenti écrivain finirait sa carrière par un suicide. Le suicide de Martin Eden est une des premières mentions qu'on trouve dans les toutes premières notes, alors même que la trame générale est encore, reste encore complètement indéterminée. Donc, tout de même, il sait à peu près où il va. Là où il, me semble-t-il, perd la maîtrise pour notre plus grand plaisir et pour la plus grande gloire de la littérature, si je puis dire, c'est lorsque il entreprend vraisemblablement le roman avec l'idée de faire une critique extrêmement sévère de ce qu'il tient pour ce qu'il appelle l'individualisme de Martin Eden, son égoïsme, cette manière de centrer son existence sur lui-même et sa seule ambition, lorsque, à un certain moment du roman, au fil de chapitres, il donne à son personnage, d'un seul coup, une carrière qui est tout autre, une dimension qui est tout autre.
Mais qui n'était, encore une fois, pas prévu. Un extrait de Martin Eden.
Le dimanche soir, il arriva à Shelly Hot Springs, las et poussiéreux, et fut reçu à bras ouverts par Joe. L'hôtel était plein et le linge sale s'accumulait. Ils firent des prodiges. Ils travaillèrent tard la nuit et recommencèrent tôt le lendemain. La petite blanchisserie à vapeur était parfaitement organisée. Les machines les plus modernes y faisaient tout ce qu'il est possible à des machines de fer. Martin tria de grands tas de linge sale tandis que Joe mettait la lessiveuse en marche et préparait des provisions nouvelles de savon mou dont la composition chimique l'obligeait à se protéger le nez, la bouche et les yeux avec des serviettes, ce qui le faisait ressembler à une momie. Une fois le triage fini, Martin l'aida à tordre le linge en le plongeant dans une rotative à plusieurs milliers de tours à la minute. Puis Martin alterna entre le séchoir et le tordeur en secouant entre-temps les bas et les chaussettes. Puis ce fut le repassage du linge de corps à nouveau jusque tard dans la soirée. C'était une chaude nuit californienne, et malgré les fenêtres grandes ouvertes, la pièce avec son fourneau à repasser chauffé à blanc était une vraie fournaise. Joe peinait fiévreusement comme une machine forcenée, aidé par cette autre machine, Martin Eden, un homme. Il fut surpris d'être aussi fatigué en entrant dans sa chambre. Il avait oublié qu'il était resté sur ses jambes 14 heures sans arrêter de travailler. Il mit le réveil à 6 heures et calcula qu'il pourrait, en se réservant 5 heures de sommeil, lire jusqu'à 1 heure. Il enleva ses chaussures pour délasser ses pieds enflés, s'assit à la table et ouvrit le livre qu'il avait commencé 2 jours auparavant. Mais dès les premiers mots, il eut de la peine à concentrer son attention. Puis, il se réveilla courbaturé et glacé par le vent de la montagne qui soufflait par la fenêtre. Il regarda la pendule. Il était 2 heures. Il planta le livre devant lui, soutint ses paupières du bout de ses doigts et s'endormit les yeux grands ouverts. Alors il s'avoua vaincu et se coucha. Un lourd sommeil le terrassa et lorsqu'il en fut brutalement tiré par la sonnerie du réveil, il sentit qu'il n'avait pas assez dormi. Les soirs suivants, Martin n'essaya même plus de lutter. De toute la semaine, il n'avait pas lu le journal et, chose étrange, cela ne lui manquait plus. Les nouvelles ne l'intéressaient plus.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Philippe Jaworski, cet extrait de Martin Eden, lu ici par Guillaume Gallienne, est-ce qu'on peut le lire, selon vous, comme une illustration de ce que le capitalisme fait à l'homme, c'est-à-dire qu'au fond, il l'épuise jusqu'à lui ôter tout désir? On l'a d'ailleurs lu pendant longtemps, sans doute encore aujourd'hui, comme cela. Est-ce que c'est juste pour vous?
Oui, c'est certain. Sa critique du capitalisme est une critique d'un système social et économique qui broie les individus, qui vide complètement les cerveaux et qui déshumanise les individus. L'exemple qu'on peut donner, assez connu, c'est celui de cette très belle nouvelle qui s'appelle La Posta, dans lequel London évoque la prime jeunesse et l'adolescence d'un garçon qui travaille en usine du matin jusqu'au soir, pendant toutes ces années, jusqu'au moment où, à l'occasion d'une mauvaise grippe, il se retrouve littéralement anéanti. Il est devenu machine lui-même. Alors, voilà un exemple qui va nous permettre de...
Mais dans le même temps, ce n'est pas forcément une lecture marxiste ou une lecture socialiste.
Elle est plus que cela. Elle l'est au sens où ce que London dit très clairement dans sa nouvelle, c'est que ce garçon est devenu machine. On a une description impeccable de ce que Marx appelle l'aliénation. C'est parfait. Il en est au point où, à la fin, il peut simplement dire à sa mère, il n'a même plus la capacité de se révolter au sens ordinaire du terme. Il n'y a même plus de colère ou de rage. Il dit à sa mère, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai fait le même geste des millions et des millions de fois. Je pars.
Un peu comme Martin Eden ne peut plus même ouvrir un livre, il n'a plus le goût de lire. Absolument. Ni même un journal.
Il n'a plus rien d'un homme. Alors, on range habituellement cette nouvelle parmi les nouvelles dites socialistes de London. Alors, il est vrai qu'il y a une critique terrible de la situation à laquelle l'exploitation des enfants mène. Mais ce qui est pour moi, le plus intéressant, ce n'est pas toute cette évocation assez monotone, qui correspond d'ailleurs très bien à la monotonie du travail, de l'enfer machinique dans lequel l'enfant est plongé, c'est la fin. C'est la manière dont London a imaginé la grève de ce garçon, qui n'a plus la force de faire la grève. Il arrête. Un beau jour, il est en convalescence, il ouvre la porte de sa maison, il voit un arbre dans la rue. C'est le printemps, il voit le ciel, il voit un arbre, il voit les feuilles. Il est en extase, on a l'impression que c'est la première fois depuis qu'il est né qu'il voit le ciel et les feuilles. Il dit à sa mère, très gentiment, très doucement, très calmement, « Je n'ai plus rien à faire ici, je pars. » Et dans les dernières lignes de la nouvelle, qui est absolument admirable, il s'éloigne de la maison. Il descend la pente d'une colline jusqu'à la gare de marchandises. Et la dernière image qu'on a de lui, c'est le garçon qui monte dans le wagon de marchandises, qui s'assied dans l'obscurité avec un sourire aux lèvres. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire cette manière de disparaître, de prendre congé, un peu à la manière d'un Bartleby de Melville. Il s'efface comme ça, sans aucune révolte spectaculaire, mais à un certain moment, on entend presque dire « je préférerais partir, je n'ai pas envie de continuer davantage ».
Donc la grande connaissance que Jack London a d'un certain nombre de philosophes, la connaissance qu'il a de Marx, des écrits socialistes, c'est une grille d'analyse dont il se sert, mais son imagination littéraire, sociale, va donner corps d'une manière extrêmement incarnée, extrêmement belle, à cette grille de lecture qui, au fond, disparaît. Et on a l'impression que vous regrettez, Philippe Jaworski, qu'aujourd'hui, on n'ait plus vu que la grille de lecture. Et d'ailleurs, on a longtemps pris Jack London comme un étendard.
Je vois son imagination comme très profondément et essentiellement dynamique. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, j'ai une certaine image du personnage qui est celle d'un être dont l'imagination est entièrement nourrie par un monde de pulsions, de besoins, d'appétits.
De colère,
etc. Extraordinairement diverses, voire complètement antagoniques, entre lesquelles il ne choisit pas, mais entre lesquelles il circule. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup à nous dire sur un problème d'actualité, qui est la question de l'identité. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il s'inscrit très précisément dans une tradition américaine qui va de Melville à Philip Roth, qui nous dit qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a que des processus et des devenirs. Le moi est essentiellement mouvement et la vie est métamorphose permanente. De sorte que dans le monde de London, on passe en permanence de la célébration de l'instant de vie à la célébration de l'instant de mort. Que l'on est socialiste et qu'à un autre moment, on est raciste. Toutes les options sont des possibilités chez London, qu'il explore. Je ne vois pas... Ce monde de polarité, parce qu'il est assez manichéen, il pense en termes comme ça, contraires, je ne vois pas des contradictions, mais des possibles, des données de l'expérience humaine qu'il explore successivement, parfois simultanément, pour le scandale, il faut dire, d'un certain nombre de ses admirateurs. Mais c'est ainsi, il est fait de toutes ces pulsions anarchiques c'est il est en mouvement entre toutes ces pulsions. Et c'est ce mouvement, cette dynamique qui fait que les idées volent en éclat assez rapidement.
Donc c'est la liberté qui le caractérise et qui caractérise sa pensée.
Une liberté absolument revendiquée et à laquelle il tient plus qu'à tout.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Philippe Jaworski, on va marquer une pause dans cette émission pour retrouver Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française pour En Compagnie des Revues. Bonjour Michel.
Bonjour Mathieu.
Alors, est-ce que Jack London fait partie de vos livres de chevet ?
Ah, il a fait partie de mes livres de chevet, ce qui ne veut pas dire que j'ai renoncé, mais... Il est incontestable.
Quand vous étiez enfant, adolescent, alors ?
Oui, voilà, pour moi, London...
Pas dire ça à Philippe Jaworski, il vient d'expliquer que c'était un romancier pour les enfants.
Mais il a été absolument, pour moi, il était le poste frontière en sortant de la forêt qui permet le transit d'une littérature, effectivement, dite de jeunesse, qui n'a pas beaucoup de sens, à la littérature pure. Et je brûle de lire le texte auquel Philippe Jaworski a fait allusion à l'instant. Ce garçon qui s'en va, qui monte dans le wagon, c'est un blues. C'est pas une annexe au Capital de Marx, c'est sûr. Hein, c'est un blues.
Oui, c'est vrai que le Capital, c'est moins poétique. Au sommaire de la NRF, cher Michel, actuellement en librairie, on trouve de nombreux textes et notamment un texte de Philippe Azoury intitulé « Le rêve de l'autre ». C'est son journal du mois de juin, c'est ça ?
Oui, en quelque sorte, c'est un journal qui ne se donne pas à lire comme tel, mais qui l'est bien. Et Azoury, Philippe Azoury, à qui j'ai proposé de... non pas de tenir un journal, mais d'être le chroniqueur de ces choses vues, de ces choses lues, de ces choses entendues, aussi bien quand il s'agit de cinéastes japonais inconnus ou d'écrivains qui sont à qui la catégorie d'underground relèverait encore trop de l'académisme. Alors, il nous introduit dans un univers de la création contemporaine tout à fait excitant.
Et qu'est-ce que vous retenez de ce journal en particulier ?
Ce qu'il dit du cinéma. Parce qu'on est à la NRF, on est encore très en retard sur l'image et sur l'image filmique qui est encore un genre d'image bien particulier. C'est le processus dont parlait Philippe Jaworski. Et là, je trouve qu'Azoury est vraiment très. On a envie de voir ce dont il nous parle.
Également Sylvain Prudhomme, l'écrivain Gallimard d'ailleurs, à qui vous avez demandé.
Édition de l'Arbalète, oui.
Ah, l'Arbalète, oui, enfin c'est Gallimard.
C'est Gallimard, mais il y a une spécificité quand même.
Et vous lui avez demandé un texte littéraire pour le coup, une nouvelle.
Oui, on lui a demandé, on l'a invité, c'est un peu le principe de la NRF aujourd'hui, de ne pas commander des textes sur des thème particulier, encore que ça puisse se faire. On reste très pragmatique de ce point de vue-là. Mais là, en l'occurrence, avec Sylvain Prudhomme, c'était vraiment feu vert, carte blanche. Et on arrive avec un merveilleux récit, une espèce de dérive en banlieue.
Café Paradis, ça s'appelle.
Café Paradis, où le nom de Balzac joue un rôle très, très important, alors même qu'il ne s'agit pas du Balzac auquel oui. on peut penser.
C'est un couple adultérin qui part se cacher en banlieue et qui va dans un café, ce Café Paradis, où se trouve un certain Balzac.
Certain Balzac. Oui. Et une histoire se noue à partir de là, d'une façon tout à fait imprévisible et en même temps très, très rigoureuse, avec la logique que seul le hasard des rencontres peut développer, qui fait de ce texte un des très beaux textes de la rentrée, je trouve. Oui.
Et puis, à signaler également, à chaque fin de la NRF, il y a des comptes rendus de lecture, et notamment oui. Le vôtre sur le livre de Laure Murat, qui s'appelle « Ceci n'est pas une ville ».
Oui, et qui est un éloge de Los Angeles.
Qu'on ne fait pas assez. On ne fait pas assez l'éloge de cette ville.
En tout cas, moi, je ne suis jamais allé à Los Angeles, mais ayant lu le livre de Laure Murat, je n'avais qu'une envie, c'était de prendre un billet d'avion pour y aller tout de suite. C'est aussi une affaire de mythologie, d'ailleurs. Ce qui est fort et beau dans le livre de Laure Murat, c'est qu'elle n'est pas dans la mythologie étouffante de Los Angeles, de Hollywood, du cinéma, etc. Même si la mythologie est là, on peut pas non plus... C'est une erreur de l'ignorer, il faut l'assumer. Mais son livre est très frais. Elle raconte comment, en descendant de l'avion, elle est tombée amoureuse immédiatement de cette ville qui n'est pas une ville, en effet, qui est une espèce de galaxie insaisissable, où il n'y a pas de centre, et qui rend la vie, en tout cas pour Laure Murat, une aventure de plaisir et d'une forme de tranquillité très surprenante, très belle.
Philippe Jaworski, vous connaissez Los Angeles, j'imagine ?
Non.
Ah non, vous n'êtes pas allé ?
Par la littérature, mais...
Et par la littérature, c'est une ville qui vous plaît.
Le livre de Laure Murat est chez Flammarion, j'oubliais. Pour les lecteurs que ça intéresse.
Donc on ne saura pas si c'est une ville qui, par la littérature, vous plaît, Philippe Jaworski ?
Non, je ne connais pas Los Angeles, non.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous sommes avec Philippe Jaworski, qui a réalisé l'édition de ses romans, récits et nouvelles de Jack London dans la Pléiade. Tout cela vient de paraître chez Gallimard. Et pour ouvrir cette seconde partie, revoilà Francis Lacassin.
Jack London est devenu vraiment l'un des animateurs du Socialist Party of America, fondé en 1901, président Victor Eugène Debs. Où il se sentait beaucoup plus à l'aise parce que ce parti qui était fondé surtout par des gens de l'Ouest, c'était les fédérations de l'Ouest du socialiste Labour Party qui avait fait scission, était contrairement aux gens de l'Est, c'est le fameux clivage qu'on retrouve d'ailleurs toujours aux États-Unis, très différent. C'était en général des ouvriers, les socialistes de l'Ouest. Au sein de ce parti, il ne sera jamais un théoricien, il sera toujours un vulgarisateur. C'est-à-dire qu'il ne cherchera pas à définir une voie idéale du socialisme, ce sera toujours un pragmatiste. Et ce sera tout de même un théoricien de l'action violente, c'est-à-dire qu'il sera toujours... Il n'est pas contre les élections, il l'a dit dans de nombreux articles, il n'est pas contre la participation des élections parce que ça fait du tapage et que ça permet une éducation politique des masses, mais il n'y croit pas. Il dit qu'on n'arrivera jamais à imposer le socialisme par la voie légale et qu'on ne peut l'imposer que par des grèves violentes et par la grève générale. Et il est parti sur les routes aussi avec sa femme et il a acheté un ranch par petits morceaux, il a voulu faire la culture, il s'est cassé la figure parce qu'il n'était pas du tout fait pour ça, il a perdu beaucoup d'argent, ensuite il payait ses ouvriers trop cher par rapport aux normes de l'époque, il ne travaillait que 8 heures par jour. Il avait créé une école pour les enfants de ses ouvriers, il accueillait tous les vagabonds qui passaient dans son ranch, etc. Enfin, c'était le contraire de l'exploitation capitaliste qu'est un ranch.
C'est un Jack London presque paternaliste que nous décrit ici Francis Lacassin, une sorte d'idéaliste qui met en pratique ses idées, ou plutôt qui agit en conséquence de ses révoltes. C'est un petit peu ce que vous disiez, que c'est la révolte, la colère, l'émotion qui est un moteur de son action politique.
Oui, oui, ça c'est sa vie. Je ne sais pas si sa littérature raconte la même histoire. Et moi, c'est sa littérature qui m'intéresse.
Dans le monde des idées de Jack London, il y a aussi ce qu'il est convenu d'appeler son racisme. On a commencé à en parler hier avec Thierry Beauchamp, mais de quoi est-ce qu'on parle au juste quand on prononce ce mot-là, Philippe Jaworski?
Ah, bien sûr, de quoi est-ce qu'on parle? Écoutez, d'abord, on parle de manière un tout petit peu anachronique. Il faut quand même en avoir conscience pour ne pas aboutir à trop de distorsions. Ce qu'on appelait à l'époque plutôt le racialisme. C'était la croyance dans la hiérarchie des races et la supériorité de la race blanche. Alors, il y a une première chose. Il faut replacer un petit peu toute cette affaire dans son contexte. Ce n'est pas du tout pour excuser quoi que ce soit. Et on n'a pas d'ailleurs à s'excuser, ni à juger, ni à condamner. Je trouve que c'est un petit peu facile, du haut de notre vertu au XXIe siècle, de condamner l'attitude d'un...
Il faudrait comparer avec d'autres personnes qui ont...
Il faudrait comparer avec d'autres personnes. Et puis, depuis quand demande-t-on aux écrivains d'être vertueux? Si on leur demandait à tous d'être vertueux, peu beaucoup...
Vous dites que Henry James...
Oui, toute une partie de l'intelligentsia de Nouvelle-Angleterre était...
Et par ailleurs, lui était beaucoup plus éduqué et avait...
Absolument, était antisémite.
Moins de raisons... De l'être fait, que London.
Les trois quarts des États-Unis de cette époque sont racistes. Je voudrais juste rappeler, parce que je n'en parle pas dans la pléiade, mais j'ai l'occasion de le faire maintenant, au tournant du siècle, 19e, 20e siècle, le Sud s'est doté, les anciens États de la Confédération se sont dotés d'une législation ségrégationniste qui aboutit à l'exode le plus important des Noirs du Sud vers les grandes villes du Nord. C'est le moment où se sont constitués ce qu'on a appelé ensuite les grands ghettos noirs. Et sur la côte ouest, où se trouve Jack London, le racisme contre les Asiatiques est virulent, il est endémique. Et, bon, alors, le racisme de London, d'une part, c'est un racisme d'époque. De ce point de vue-là, il n'est pas particulièrement original. Il l'affiche, il le revendique, il le proclame. Il persiste et signe. Sa fille, Joan, rapporte qu'au cours d'une réunion de la section locale du Parti Socialiste à Auckland, il s'est fait prendre assez vigoureusement à partie par ses camarades du parti, parce qu'il avait tenu des propos visiblement assez méprisants sur les travailleurs asiatiques.
Comme quoi tout le monde n'est pas exactement de son avis à l'époque.
Absolument. Et lui a répondu « Je suis blanc d'abord,
socialiste ensuite
». Bon. Donc, ça c'est une donnée. Ce que je fais tout de même... Alors, les insultes racistes, on en trouve dans un certain nombre de ces textes, dans quelques textes, surtout dans les mutinées de l'Elseneur. Bien, reste que, quand on le voit à l'œuvre, c'est-à-dire dans ses romans et surtout alors dans ses nouvelles, on s'aperçoit que ce qu'il nous dit... sur la confrontation de ce qu'à l'époque on appelle des races est bien différente de ça. Je ne connais pas dans la littérature américaine de corpus littéraire de nouvelles, et surtout à cette époque, qui, comme c'est le cas avec son cycle des Nouvelles du Grand Nord et des Nouvelles du Maire du Sud, face à ce point, le procès de la domination de l'homme blanc. Vous voyez, une des choses quand même les plus passionnantes chez London, c'est cette capacité qu'il a d'affirmer continuellement sa croyance dans la domination de l'homme blanc, ce qu'il appelle l'inévitable homme blanc. Sa croyance dans la hiérarchie des races, l'homme blanc est supérieur, les dieux supérieurs, etc. On connaît toute cette terminologie. Et puis, dès lors qu'il prend la plume et qu'il commence à écrire, ces personnages de fiction, ces personnages héroïques, ces héros de fiction, ce sont les exploités, ce sont les vaincus, ce sont les victimes de la domination de l'homme blanc. On ne trouverait nulle part dans son œuvre un texte de fiction, je parle de fiction là, qui soit à la gloire de l'homme blanc, qui montre les raisons qu'on a vouloir cet état de choses.
Et donc, dans les nouvelles des mers du Sud que vous venez de mentionner, la grande figure, finalement, la figure christique, c'est ce personnage qui sauve le bateau des flammes, bien, c'est un sang-mêlé.
C'est un sang-mêlé, c'est un métis. Je ne crois pas, là encore, qu'il y ait à son époque autant de personnages de métis et de sang-mêlé, qui sont finalement les véritables héros de ces deux grands cycles. Les deux cycles ont ceci de commun qu'ils comptent l'histoire de la conquête de ces terres lointaines, de la destruction des communautés indigènes par cupidité, par goût de la possession des terres et de leurs richesses, qui ont amené l'existence de toute une population de métis. Les hommes ont trouvé les femmes sur place. Si on ajoute à ce phénomène tous les processus de métissage culturel, eh bien, c'est à ces personnages-là que London s'intéresse, et essentiellement pour montrer les drames, voire les tragédies de ces métis.
Donc ce qu'on a envie de retenir au fond de ce que vous dites, c'est que Jack London n'a pas su choisir ou canaliser ses différentes révoltes, ses appétits contraires, et que donc il présente le visage de quelqu'un qui est pétri sans cesse de contradictions.
Absolument. Il y a de tout dans London. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, et qui sont chaque fois à saisir dans leur situation et dans leur contexte.
Donc sa vérité, s'il y en a une, où est-ce qu'on peut la trouver? Ou peut-être ne faut-il pas la chercher? Est-ce dans sa correspondance?
On la trouvera alors sûrement dans sa correspondance. Ces lettres sont absolument passionnantes et je crois que c'est une des clés pour le connaître et pour le comprendre. On la trouvera si on arrive à le suivre dans son dynamisme, dans sa dynamique et dans ses mouvements. Et c'est un être qui est perpétuellement en mouvement. Là est, je crois, sa vérité. Dès qu'on a affaire à des choses figées, et les idées sont souvent figées, on le perd ou il s'échappe.
Profite du fait que vous êtes là, Philippe Jaworski, pour parler aussi de la fabrique des romans de Jack London. Comment travaillait-il? Alors on sait qu'il travaillait à force de 2000 mots par jour, qu'il se contraignait absolument à ce travail. Mais pour aller un petit peu plus loin, comment fait-il émerger ses romans?
C'est une bonne question. On est très frappé quand on regarde, par exemple, sur une année, l'enchaînement des textes. On a du mal à suivre une quelconque logique, à retrouver une quelconque logique. Alors, on connaît assez bien ses habitudes de travail, en effet, parce qu'il les a évoquées.
Il revenait jamais en arrière, et quand c'était pas bon, c'était pas grave. Il envoyait toujours à l'éditeur,
il envoyait de toute façon.
Et il le savait, il le disait d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant.
Il disait, j'écris pour gagner c'est mon gagne-pain. Il se lance dans l'écriture pour gagner sa vie, et s'il s'adresse au magazine, c'est pour être payé tout de suite. En effet, il avance.
Mais du coup, il n'y a pas de souci de la forme. Il y a forcément un souci de la forme, mais ça n'est pas premier.
Ce n'est pas premier. Je citais tout à l'heure cette formule, c'est l'habillage. C'est un peu secondaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il est totalement indifférent à ces choses-là. Mais il est poussé par autre chose. Il me semble qu'il serait très intéressant un jour de demander à des écrivains français, par exemple, de nous dire ce qu'ils pensent des méthodes de travail de Jack London, parce que je suis persuadé que ça a une influence absolument considérable sur son travail d'écrivain. Je veux dire, s'obliger à écrire 1000 mots par jour, sans revenir en arrière, et puis au bout de 1000 mots, s'arrêter pour se plonger dans les activités de la journée et revenir le lendemain sur ce qu'on a écrit, sans rien jeter à la poubelle, sans raturer, sans reprise, etc., n'est pas sans incidence, évidemment.
Justement, c'est peut-être ce qu'on se disait aussi dans la première partie de cette émission, c'est-à-dire que c'est l'inconscient directement qui le parle, et finalement, ne pas retravailler ses textes, ça lui permet de faire des textes bien meilleurs que s'il les avait retravaillés, non, Philippe Javorte ?
C'est possible, c'est tout à fait possible. Ça donne, je suis persuadé que ça contribue à donner assez rapidement aussi des réflexes, et j'ai presque envie de dire des réflexes de survie, c'est un thème qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder, mais qui est essentiel chez London, des réflexes de survie dans l'écriture, c'est-à-dire qu'au moment où on est en panne, et London ne peut pas connaître la panne, c'est quelque chose qui ne connaît pas, de trouver tout de même quelque chose. Bon, alors c'est dans ces conditions-là, on comprend peut-être que la nouvelle est un genre qui lui est particulièrement bien convenu. À 1000 mots par jour, il écrit des nouvelles qui ont en gros entre 6000 et 8000 mots. Vous voyez qu'une semaine de travail lui permet de boucler une nouvelle. On a donné dans cette édition de la Pléiade 47 nouvelles. J'ai fait un choix très généreux, parce que j'ai vraiment redécouvert London Novelist. Je crois que c'est un merveilleux novelliste. En particulier parce que London a le génie de la situation. Il voit tout de suite une situation.
Plus que de l'intrigue, c'est d'abord la situation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence fondamentale, finalement, entre le génie de l'intrigue et le génie de la situation ?
Le génie de la situation, c'est de penser tout de suite à deux forces antagonistes, deux forces qui sont en conflit, qui sont face à face, de
c'est
les
le dispositif.
Mettre dans un rapport où l'une des deux doit disparaître. Et puis de créer une situation de tension là-dedans, de la porter à son paroxysme jusqu'au moment où la crise éclate.
Comme dans Le Loup des Mers, par exemple, dont on avait dit qu'on dirait un mot.
C'est le Loup des Mers. C'est l'affrontement entre le capitaine et puis le critique littéraire qu'il sauve de la noyade au début. Mais les situations d'affrontement sont absolument partout chez London, et la situation est pour lui, est une situation d'autant plus riche à exploiter que la survie est tout de suite l'enjeu essentiel. Faire un feu, qui est une de ses nouvelles les plus connues, met l'homme en face du froid. Donc c'est la situation d'affrontement entre l'homme et la nature, l'homme et l'animal, l'homme et l'homme. Les classes sociales, talons de fer, c'est ça. C'est cette succession de guerres entre les classes, c'est toujours ces mêmes situations. Mais vous voyez que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'intrigue, il y a simplement le développement qui est poussé jusqu'à son paroxysme d'un rapport conflictuel pour savoir qui va l'emporter, qui va avoir le dernier mot, qui va venir à bout de l'autre. Dans cette affaire-là, je fais remarquer que les corps London est un matérialiste. Les corps sont au premier plan. L'œuvre de London est un véritable cimetière. Les corps sont soumis à des épreuves absolument extraordinaires là-dedans. Et voilà pour la situation.
Et son corps à lui, il l'a bien entendu soumis aussi à des épreuves sans doute un peu trop extraordinaires. Merci beaucoup Philippe Jaworski. On termine cette émission comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour, nous retrouvons Georges Perros qui nous dit, avec ses blessures sensibles, pourquoi il nous raconte sa vie. Tout un poème, un roman-poème. Et finalement, pourquoi c'est pas sa vie qu'il raconte, une vie ordinaire. Georges Perros, poésie Gallimard. Si je parle ainsi, ce n'est point familiarité de ma part. Ne vous y trompez pas, mes frères, mais j'ai très souvent l'impression de ne pas écrire en mon nom, de n'être là que par hasard, et si je me sers de ma vie, c'est par paresse, nullement par goût de vous la raconter. Que serons-nous dans 200 ans, Tania, Georges, vous, mes enfants, toi qui perds ton temps à me lire, sinon fantômes ambulants, très loin de leur chaleur humaine, alors toi, moi, vous, mon voisin, quelle différence aussi bien ? On disait des poètes et des trouvères qu'ils étaient jongleurs, je me lance dans le deuxième poème comme si c'était un numéro d'équilibre. Plus animal que l'animal, l'homme s'habitue, c'est son mot, se solitarise en douceur dans le ciment froid de l'horreur de vivre les uns sur les autres ce que les chiens ne voudraient pas, ni les chats, ni quiconque est roi, comme tigre allant dans sa cage de droite à gauche, mais tout seul et rêvant ton espace asie tandis qu'un enfant le regarde aux bras frêles de grand-maman. Georges Perros gardait des pensées, des aphorismes sur des petits papiers, d'où l'édition de papier collé. Les hommes se peuvent faire du bien les uns les autres, c'est ce que j'ai appris dans la solitude. Dans une de ses dernières lettres, dit son préfacier Laurent Gaspard, il m'écrivait « Je voudrais que ce soit la bonté, la poésie. J'ai bonne mine. » On s'est marié l'an dernier, en 1963, Tania et moi, dans le quartier. Elle pleurait, le maire aussi. La chose fut très réussie. L'aîné de nos fils s'amusait sous la table matrimoniale. On avait laissé le second à la charge d'une grand-mère et la troisième, Catherine, était encore au chaud dedans le ventre de sa mère. Voyez qu'il était temps de convoler, de régulariser l'étreinte, d'avoir beau livret de famille et moins de soucis sociaux, soucis de 6 sous, soucis sots, bon exercice de diction, puis nous avons repris chemin de l'humble quotidienneté plus que la mère recommencée. Certes, elle n'est pas de ces femmes quasi-secrétaires qui tapent à la machine les écrits de leur écrivain de mari. Je ne m'en plains pas, c'est si drôle de se taper texte soi-même. On y voit plus clair dans son encre ou dans sa médiocrité. C'est ainsi que pas mal de mots disparaissent, soit lassitude, soit paresse, car taper toute la journée est fatigant. Ô dactylo, comme je vous plains sans rien dire, quand je me perds dans vos bureaux. Toc, toc, toc. Elle a parlé la langue russe, sans connaître un mot de français, jusqu'à 9 ans, mais maintenant, elle manie très bien la nôtre, si bien qu'il m'arrive parfois de lui demander de reprendre la langue ours de ses ancêtres.
Voilà, Jacques Bonafé, son choix quotidien de poèmes. Merci à vous, Philippe Jaworski, d'avoir déployé pour nous la pensée de Jack London. Je rappelle que vous avez coordonné l'édition des œuvres de London en Pléiade chez Gallimard, laquelle vient de sortir. À la console, il y avait aujourd'hui Élise Leu, à la réalisation Laurence Millet et à la préparation, comme d'habitude, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, dernier temps de notre semaine London, je recevrai Michel Lebris et Jennifer Le Sieur qui viendront conclure cette série pour nous. D'ici là, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission ainsi que les précédentes. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Mais dans quelques minutes sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la méthode scientifique, les sciences par Nicolas Martin. Très bon après-midi à toutes et à tous.